commentaire avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
Bonjour et bienvenue dans Commentaires. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous avoir avec nous pour cette conversation hebdomadaire qui va porter aujourd'hui sur la France, sur la situation politique de la France, avec l'aide de Frédéric Dabi, qui est le directeur général opinion de l'IFOP. Bonjour Frédéric.
Bonjour Jean-Marie. Bonjour.
Merci d'être avec nous. On vous a convoqué un petit peu aujourd'hui, Frédéric, quand la rentrée est déjà largement entamée, mais la conversation nationale, comme on dit, c'est-à-dire lorsque les gens parlent politique, il y a quelque chose qui écrase tout, qui domine tout, c'est qu'on a l'impression aujourd'hui d'être installé sur un toboggan. Et ce toboggan nous conduit irrésistiblement à la victoire de Marine Le Pen dans 4 ans, ou dans 3 ans et demi maintenant, à l'élection présidentielle de 2027. Et donc on va partir de ce point de départ pour caractériser la situation politique de la France, qui nous amènera évidemment à parler de l'état de la droite, où les candidatures commencent à se manifester, l'état de la gauche à travers la NUPES et les surenchères de Monsieur Mélenchon, et puis la situation propre du président de la République qui souffre vraisemblablement dès maintenant de ne pas pouvoir se représenter, souffre dans l'esprit de ceux qui ont entamé dès maintenant la course à l'Élysée, une course précoce, mais qui est déjà, me semble-t-il, lancée. Donc peut-être, Frédéric Dabi, commençons par ce qui domine l'ambiance du pays aujourd'hui, en tout cas l'ambiance politico-médiatique, qui est cette quasi-certitude qu'énoncent les uns et les autres d'une victoire de Marine Le Pen à la prochaine élection présidentielle. Frédéric Dabi.
Oui, j'entends votre constat, Jean-Marie. C'est vrai qu'il y a un constat de déclin collectif de cette France qui tombe et, plus personnellement, un ressenti de déclassement individuel. Et tout ça fait dire que pourquoi ne pas essayer celle ou ceux, la formation politique, le RN, qui n'a jamais été au pouvoir. Maintenant, parler aujourd'hui, wink and nunc, ici et maintenant, comme disait François Mitterrand, d'une victoire irrémédiable, inéluctable, irrésistible de Marine Le Pen, cela me paraît exagéré. Pour autant, si on considère la tectonique des plaques, la situation politique du pays, que j'ai caractérisée par une guerre des trois blocs, le bloc NUPES, en très grande difficulté, hein, les outrances de Jean-Luc Mélenchon, sa décrédibilisation, cette gauche fracturée de plus en plus entre ce que pense le peuple de gauche et ce que nous disent les leaders de la NUPES et surtout de la France insoumise, ce bloc central en grande difficulté, sans leader naturel, avec un président affaibli, on en parlera peut-être dans les enquêtes de popularité, on se dit que le bloc RN est plutôt le mieux placé. C'est vrai que quand on regarde tous les grands indicateurs, la popularité, ce qui n'était pas chose évidente pour Marine Le Pen à une époque, la crédibilité, qui constituerait le mieux l'alternative au macronisme, les indicateurs sont systématiquement au vert pour le Rassemblement National et Marine Le Pen. Il y a, avant de se projeter sur 2027, un premier rendez-vous, la première vraie élection intermédiaire, mettons les sénatoriales pourtant très intéressantes de côté, les élections européennes du 9 juin prochain, et là, ça sera peut-être une première étape pour essayer de voir si cette victoire de Marine Le Pen est irrésistible, si ce sentiment d'alternative, l'idée que c'est son tour, l'idée qu'elle ne pourra pas faire plus mal que les quinquennats passés, s'enracine dans l'opinion publique, avec l'idée de voir également si les segments de population dans lesquels le RN est historiquement plus faible que sa moyenne, c'est-à-dire les personnes âgées, les cadres sup, se dégèlent en faveur du RN.
Jean-Claude Casanova.
Oui, je comprends bien, c'est un peu tôt pour énoncer des probabilités fortes de la prochaine élection présidentielle, mais la mise en place qu'a bien indiqué Frédéric Dabi est tout à fait juste. La France est divisée, comme beaucoup de démocraties européennes d'ailleurs, la France est divisée en trois blocs, disons, un bloc central qui est au pouvoir, mais qui est divisé à l'intérieur, au Parlement notamment, une extrême gauche qui s'est radicalisée, qui a remplacé de façon plus radicale à certains égards le Parti communiste, et une extrême droite qui est devenue extrêmement populaire à la fois parce qu'elle fait apparaître désormais plusieurs dirigeants, si vous voulez, le fait qu'il y ait un numéro 2 à côté de Marine Le Pen est symptomatique, et d'autre part, l'attitude extrêmement correcte, disciplinée, courtoise du groupe parlementaire. On voit dans d'autres sondages que les Français ont une bonne opinion du comportement du Rassemblement national au Parlement. Et donc, de ce fait, si vous voulez, la probabilité d'une élection de Marine Le Pen apparaît. Mais enfin, ça n'implique aucune certitude, ça dépendra de la qualité du candidat qui lui sera opposé. Macron a gagné deux fois contre Marine Le Pen. Il faudra que le successeur de Macron fasse aussi bien que lui.
À condition d'avoir un successeur issu de des rangs macronistes, ce qui n'est pas du tout évident, parce qu'on sait bien que, par exemple, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe fait partie des personnalités, sinon est la personnalité la plus populaire en France aujourd'hui, mais il semble toujours plus ou moins combattu par le président de la République lui-même, donc on ne sait pas trop s'il pourra s'imposer, et une fois s'il s'impose chez les macronistes ensuite, comment pourra-t-il aussi séduire une autre partie de l'électorat, notamment celui qui est fidèle aux Républicains.
D'autres candidats peuvent apparaître, notamment Castex, et puis le président de la République peut nommer d'ici l'élection présidentielle un nouveau Premier ministre qui cumulerait immédiatement peut-être une forme de popularité. Donc, comme nous sommes totalement incertains sur les candidats, à l'intérieur du Parti Républicain, il y a un opposant à Philippe. Donc nous ne savons pas du tout quelle sera la configuration de la droite classique qui va évidemment chercher d'une part à se recentrer et d'autre part à se droitiser pour séduire une partie des électeurs de Marine Le Pen.
Frédéric Dabi.
Je partage ce que dit Jean-Claude Casanova très largement. Déjà, oui, aujourd'hui, Édouard Philippe apparaît comme le mieux placé, mais il n'est pas le candidat naturel. Terme et statut qui n'avait pas porté chance à Michel Rocard, qui lui, dès 88, apparaissait comme opposition de force pour la perspective de 95. On sait comment ça s'est terminé. C'est vrai que dans ce bloc central, les choses sont un peu floues. Est-ce que c'est négatif qu'Édouard Philippe apparaisse non pas comme le successeur tracé d'Emmanuel Macron, mais comme un successeur, un héritier plus rebelle? Ce n'est pas si mauvais que cela. On sait que, quand on voit l'histoire de la Ve République, chaque successeur s'est posé en rupture, en distinction par rapport à son prédécesseur. Chirac n'était pas Mitterrand, Sarkozy n'était pas Chirac, etc. Maintenant, il y a une équation qui nous manque dans cette guerre des trois blocs. J'ai parlé du bloc NUPES, du bloc RN et du bloc central. Où est LR? LR, est-ce que LR ne pourra pas ne pas, j'utilise à dessein une double négation, rentrer dans ce bloc central et essayer, comme disait Trotsky, de monter dans l'avion pour pouvoir le piloter et prendre le contrôle? Quand on voit Laurent Wauquiez qui a beaucoup atténué, amoindri ses critiques à l'égard du macronisme, ça peut-être se poser. Il y a une éventualité d'un remaniement dans un an, deux ans, qui ferait peut-être officiellement entrer les LR dans la majorité ou dans le bloc central. Je n'en sais rien, beaucoup de choses peuvent se passer, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est frappé par un double désordre, le désordre de la gauche, pour pas parler de crise que j'ai rarement observer une forme de désordre dans la majorité présidentielle, pas de candidat naturel, vous parlez de Castex, on parle de Gérald Darmanin, Bruno Le Maire qui serait un héritier plus central puisqu'il est dans le gouvernement depuis, il est ministre des Finances depuis très longtemps, voire...
On commence même à parler de Gabriel Attal.
J'allais dire, Jean-Marie, Gabriel Attal, donc il y a une forme de désordre ou plutôt de désorganisation face à un bloc RN très organisé qui se construit en distinction. Comme Marine Le Pen avait bénéficié pendant la campagne d'une distinction par rapport à Éric Zemmour. Là, c'est une distinction par rapport au désordre, à la zadisation, à la bordélisation, si je puis dire, organisée par la France insoumise. Quand on interroge, c'était une enquête très récente pour le JDD, les Français sur qui inquiète le moins, qui est le plus attaché aux valeurs démocratiques, systématiquement Marine Le Pen ou le RN font mieux que la France insoumise. Donc c'est cette voix qui apparaît balisée, mais je le répète, et vous l'avez tous dit, 3 ans et demi avant, prudence absolue, quid des élections intermédiaires, quid du contexte politique et quid aussi de la capacité d'Emmanuel Macron à créer la surprise et à réorganiser, à changer la donne, pourquoi pas à travers une dissolution.
Alors justement, venons-en à Emmanuel Macron, parce que il est dans une situation inconfortable par nature, puisqu'il ne peut pas se représenter. Donc le fait qu'il ne puisse pas se représenter, c'est un signe, c'est une promesse d'affaiblissement. Alors parler d'affaiblissement aujourd'hui, c'est peut-être un peu rapide, sauf que dans l'opinion, malgré sa réélection récente, il y a quand même des tas de voyants qui se sont allumés, plutôt orange ou rouge que vert. Donc, est-ce que ça porte atteinte à sa capacité d'action? Comment regardez-vous cela, Frédéric Dabi? Parce qu'on a l'impression qu'il est toujours, j'ai peut-être exagéré, mais un peu mal considéré par nos concitoyens.
Oui, je partage ce constat. On a un président qui a un bloc de soutien d'un petit tiers, son socle électoral du 10 avril, qu'il rassemble à plus de 80%. Mais il y a effectivement des voyants, des clignotants qui passent clairement au rouge. D'abord, qualitativement, je suis frappé d'une véritable rupture depuis maintenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, depuis la rentrée. C'est que les Français évaluent Emmanuel Macron à travers la grille de l'inaction. C'est-à-dire, il ne fait plus rien, il n'a pas de résultat, il y a un décalage entre le discours et les actes, et ça, c'est complètement nouveau. C'est la grille qui avait été imposée sur le quinquennat, plutôt d'ailleurs injuste, à l'égard de François Hollande, les promesses non tenues et l'inaction pour Nicolas Sarkozy. Donc, l'idée qu'Emmanuel Macron est un président, j'ai envie de dire, type second mandat, François Mitterrand 92-95 ou Jacques Chirac 2004-2007 est particulièrement préoccupant. Deuxièmement, et là ça touche à, je dirais, la force de la fonction présidentielle. Dans le dernier baromètre IFOP fiduciaire pour Paris Match, il y a eu un véritable tournant sur la capacité du président à défendre les intérêts de la France à l'étranger. Sur l'international, il est en chute libre, il a perdu 6 points. Il est en dessous des 40% d'opinion positive. Cela ne s'est, en 20 ans de baromètre Paris Match, jamais vu. Même le Jacques Chirac impopulaire de la fin de son second mandat, même Nicolas Sarkozy, même François Hollande avaient systématiquement des jugements majoritairement positifs. Alors, c'est lié à ce qui s'est passé récemment en Afrique subsaharienne, au Maroc, la relation avec l'Algérie, etc. Mais ça en dit long aussi sur une forme de démonétisation d'Emmanuel Macron vis-à-vis d'une partie majoritaire de l'électorat français.
Jean-Claude Casanova, je sais pas, vous serez peut-être de cet avis, mais il me semble qu'il y a une part d'injuste dans ces jugements, parce que, par exemple, s'il n'a pas de résultat, mais s'il a des résultats très impressionnants sur le chômage, par exemple, mais ça n'est plus la préoccupation dominante du pays. Et sur l'international, oui, il y a des défaites retentissantes en Afrique et un sentiment de recul ce qui se passe évidemment au Niger doit peser dans le jugement des Français. Mais en même temps, il y a la guerre en Ukraine et on ne peut pas faire grief au président de la République de ne pas jouer sa partie à la fois en Europe et vis-à-vis de l'agresseur russe. Jean-Claude Casanova.
Oui, je crois qu'il faut partir d'une position générale, c'est que depuis un certain temps, la base de popularité des présidents de la République s'est réduite. Giscard disait que pour gouverner convenablement, il fallait être soutenu par 2 Français sur 3. Depuis un certain temps, les présidents de la République sont soutenus par 1 Français sur 3. Et ils ont, au premier tour d'élection présidentielle, une position beaucoup plus faible qu'autrefois. Et donc, leur électorat, au-delà de 50%, qui leur permet d'être élu, est un électorat en partie hétérogène, qui comprend leur seuil de départ et les gens qui se rallient au second tour. Donc il y a une position relativement faible du président de la République en France, mais les principaux dirigeants des pays européens n'ont pas de meilleure situation. Le chancelier allemand n'est pas en excellente situation, le premier ministre anglais non plus, et de même en Espagne et en Italie. C'est d'ailleurs assez dommage pour l'Europe, qui est dans une grande période de transformation. Les exécutifs européens n'ont pas des bases très solides, alors que les défis européens sont considérables. D'autre part, dans le cas actuel de Macron, il y a un paradoxe, parce que c'est un président de la République extrêmement actif. comparé à ses prédécesseurs. Il a ouvert beaucoup de chantiers, si vous voulez. Il a amélioré la situation économique, qui est incontestablement un succès, qu'il faudra surveiller attentivement, d'ailleurs, en fonction de l'évolution de la conjoncture. Et il est sorti de graves crises comme celle du Covid, etc. Objectivement, je ne pense pas que son bilan soit mauvais, si vous voulez. Je trouve que dans la situation où était la France, il a plutôt bien gouverné la France. Mais il fait aujourd'hui tellement de propositions, il intervient dans tellement de domaines qu'il y a une complexité. Je crois qu'il est mal compris par l'opinion qui ne voit pas les lignes directrices, justement parce que il a ouvert un très grand nombre de chantiers. Il veut des réformes constitutionnelles. Il est très actif sur le plan international. Nous avons subi des revers en Afrique, mais les revers que nous avons subis en Afrique ne tiennent pas à Macron. Ils tiennent à la faiblesse relative de la France par rapport à l'ampleur de la tâche à accomplir. Et donc, il faudrait s'interroger, si vous voulez, sur la difficulté du pouvoir exécutif aujourd'hui en Europe, compte tenu des difficultés des situations européennes.
Commentaire sur Radio Classique.
Nous sommes avec Frédéric Dabi aujourd'hui, directeur général opinion de l'IFOP, pour parler de la situation politique française. Nous évoquions cette contradiction qu'il peut y avoir entre ce paradoxe, entre un président impopulaire et soupçonné d'inaction par une majorité de Français, et puis au contraire son activisme qui fait qu'on lui reproche aussi de se comporter en Premier ministre. En Premier ministre, en ministre de ceci, en ministre de cela, en ministre de tout, et donc d'être sur tous les fronts, et donc c'est évidemment une difficulté supplémentaire pour le président de la République. Vous évoquiez tout à l'heure, Frédéric Dabi, les désordres dans les différents blocs que l'on évoquait. Désordre à gauche aussi. Là, on a l'impression que désormais, Jean-Luc Mélenchon fait cavalier seul et que, en dehors de Jean-Luc Mélenchon, les autres composantes de la gauche, je mets à part les écologistes qui sont très difficiles à caractériser, l'idée dominante est que si c'est Jean-Luc Mélenchon qui est au second tour pour représenter l'opposition, les oppositions, l'élection de Marine Le Pen est acquise. Donc comment regardez-vous cela, Frédéric Dabi ?
Oui, c'est vrai que les choses à gauche sont extrêmement compliquées et sont même protéiformes. D'abord, une virulence entre les acteurs principaux de la gauche, jamais vu. Traiter le secrétaire national du Parti communiste de Jacques Doriot, il fallait le faire. On a également un décalage de plus en plus fort entre le centre de gravité idéologique du peuple de gauche, soyons un peu ronflants, et le centre de gravité idéologique des principales personnalités de la NUPES. Et je parle de la France insoumise, parce que, Jean-Marie, dans l'opinion publique, il y a une équation très nette que font les Français. La NUPES, c'était LFI. LFI, c'est Mélenchon. Et aujourd'hui, en termes d'incarnation, la NUPES, ce n'est que Jean-Luc Mélenchon. Quand bien même, Fabien Roussel, Carole Delga, François Hollande font tout pour montrer qu'il y a une autre gauche. Donc ce décalage, cette coupure avec la base est de plus en plus problématique. Une majorité de sympathisants de gauche ne pense pas que la police tue. Une majorité de sympathisants de gauche ne pense pas qu'il y a un racisme systémique. La radicalité, ce glissement d'une gauche de gouvernement à une gauche radicale, tribunicienne, protestataire, n'est pas comprise et ne fait pas l'objet d'un soutien majoritaire, loin de là, même à gauche. Tout ça profite, on l'a dit, à Marine Le Pen, qui endosse les habits de l'opposante la plus crédible et l'alternative, et accentue cette fracture à gauche, avec un Jean-Luc Mélenchon de plus en plus virulent, inquiétant. Les Français considèrent qu'il c'est l'homme politique le plus inquiétant, plus que Marine Le Pen, moins attaché que Marine Le Pen aux valeurs démocratiques, et qui clairement se positionne, avec une politique de la terre brûlée, comme un candidat, du premier tour qui serait le seul, mais vous l'avez dit, il a une capacité, grâce à son talent, grâce à une forme de clientélisme vis-à-vis de l'électorat de Français de confession musulmane, à avoir un très bon score au premier tour, voire être qualifié pour le second tour. Mais on sait très bien, et on connaît l'adage célèbre de Guy Mollet qui avait été remis à la mode par Charles Pasqua. Au premier tour, on choisit, mais au second tour, on élimine. Et c'est vrai que dans tous les scénarios, quand bien même il faut être prudent sur la temporalité 2027, Jean-Luc Mélenchon est en l'incapacité de gagner un second tour, que ce soit face à un candidat du Bloc central, face à Marine Le Pen, compte tenu du rejet épidermique qu'il suscite chez une nette majorité de Français.
Jean-Claude Cazeneuve, vous évoquiez tout à l'heure le fait que tous les pouvoirs exécutifs aujourd'hui en Europe sont en difficulté. On peut dire d'ailleurs même aussi aux États-Unis.
Oui, encore
et,
plus.
S'agissant de la gauche, en revanche, la gauche, elle a quasiment disparu, la gauche de gouvernement, je dirais, a quasiment disparu en France, alors qu'elle exerce le pouvoir en Allemagne, alors qu'elle s'apprête à gagner les élections, si les élections arrivaient très vite en Grande-Bretagne. Elle va refaire un gouvernement en Espagne. Donc, elle n'est pas morte ailleurs. Donc, comment expliquer ce phénomène, Jean-Claude Cazeneuve ?
Il y a une particularité française qui réapparaît. C'est pas un phénomène nouveau. Très longtemps, le Parti communiste a été le parti le plus important à gauche. Dans la France du lendemain de la guerre, il y a d'ailleurs un paradoxe historique extraordinaire, de 45 à 1951, le Parti communiste, au moment totalement inféodé à l'Union soviétique, était le parti le plus puissant à gauche et avait entre 25 et 30% d'électeurs. Donc, si vous voulez, le paradoxe français se perpétue à travers l'histoire. Mais Mélenchon, je crois, a comme seul objectif l'élection présidentielle. Et il apparaît, il pense se positionner en étant le plus radical possible. Il pense qu'il y a un nouveau type d'électorat qui est apparu en France, qui est radical, et on le perçoit. Il y a un radicalisme dans une partie de l'opinion, notamment chez les jeunes. Il y a un électorat des banlieues spécifique qu'il pense incarner et gagner. Et au moment de l'élection présidentielle, il fera toutes les concessions possibles. Il voudra apparaître à la fois comme le plus radical et comme celui qui peut gouverner. Son objectif étant de se trouver, évidemment, au second tour, ce qu'il n'a pour l'instant jamais réussi. Et comme je pense que c'est le rêve absolu qui le domine, il n'y aura pas de variation. Il va connaître une difficulté avec l'élection européenne, parce que est-ce que les insoumis seront en tête des différentes candidatures ? Ça va dépendre de la qualité de la liste socialiste et de la place qu'elle pourrait prendre. Ça va dépendre du nombre de voix que feront les écologistes et du nombre de voix qu'espère le nouveau Parti communiste, dans lequel il y a une volonté de coïncider plus avec l'opinion générale sans se radicaliser. Alors, mais ça ne durera, s'il a une déconvenue aux européennes, ça ne durera qu'un temps et il reprendra son cheval pour poursuivre sa stratégie qui vise, je crois, exclusivement l'élection présidentielle.
Frédéric Dabille.
Oui, je partage complètement ce que dit Jean-Claude Cazeneuve. Il y aura les européennes, effectivement, et la gauche éclatée. Rien ne dit que la liste Manon Aubry, si elle est tête de liste, la liste LFI, sera en tête au sein de la gauche. De la même manière, les élections municipales, qui seront par définition catastrophiques pour la France insoumise, qui a quasiment aucun sortant dans les grandes villes, n'empêchera pas Jean-Luc Mélenchon d'être sur cette logique de présidentialisme absolu. C'est assez cocasse de m'entendre dire ça quand on sait qu'il est sur une logique de sortie de la Ve République. Absolument. dans laquelle l'élection présidentielle est la clé voûte. Mais tout ça, je dirais, préfigure de nouvelles péripéties au sein de cette guerre des trois blocs. Le bloc RN apparaît effectivement le plus stable, avec, vous le disiez au début de notre échange, Jean-Claude, Marine Le Pen qui a le bénéfice d'avoir pour la première fois un vrai numéro 2 qui peut la protéger, qui peut lui permettre de prendre de champ, de la hauteur. En l'occurrence, Jordan Bardella, qui lui sera aux élections européennes comme tête de liste et qui a de fortes chances d'arriver en tête ou d'être vraiment dans le duo de tête au soir du 9 juin et encore accentuer la capacité du RN à être une alternative, puisqu'on parle de cycle électoral. L'avantage également majeur dont bénéficie Marine Le Pen dans la perspective 2027, c'est, à la différence de 2017 et 2022, ne pas avoir quelques mois avant les élections, avant l'élection présidentielle, ces élections régionales qui avaient vu les ambitions du RN ou du FN, des bons scores de premier tour, se fracasser sur un vote d'élimination au second tour. On sait que l'électeur RN veut gagner, et c'est vrai que dans ce cadre-là, ces élections régionales ratées, 2015-2021, avaient clairement coupé l'élan et la dynamique RN.
Voilà, nous n'avons plus trop le temps de poursuivre cette discussion parce que le temps s'est écoulé. J'aurais voulu d'un mot peut-être, Frédéric Dabi, dans les désordres que vous décrivez, il va être très très difficile d'avoir une majorité pour changer la Constitution et pour introduire notamment une dose supplémentaire de référendum. En un mot, comment les Français regardent cette perspective ou est-ce que c'est vraiment une aspiration d'une majorité de Français d'ouvrir davantage le champ des référendums?
Alors je pense, Jean-Marie, que dans l'absolu, vous trouverez beaucoup d'enquêtes d'opinion qui révéleront que les Français sont favorables à une extension du champ du référendum, qu'ils souhaiteraient un référendum sur tel ou tel thème, immigration par exemple, etc. Mais en comparaison, par rapport aux grandes priorités, cette question de la Constitution, de l'organisation des pouvoirs est reléguée très fortement derrière le triptyque, si je puis dire, qui inquiète les Français: la santé, le pouvoir d'achat mêlé à l'inflation, ainsi que l'éducation ou la sécurité. Ce triptyque devient un quatuor, et c'est vrai que dans ce cadre-là, les questions institutionnelles pèsent très peu, alors même que la Ve République montre sa solidité dans cet océan de fragilité et d'incertitude que connaît notre pays.
Voilà, nous allons terminer sur cette note de conclusion de Frédéric Dabi. Merci Frédéric Dabi.
Merci beaucoup.
Directeur général opinion de l'IFOP, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous remercions. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de Commentaires.